Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Dans la seconde partie de l'émission, la grande table des idées, notre cerveau est-il une menace pour la planète? On le sait que ça va mal finir. Et pourtant, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher? Il signe chez Robert Laffont le bug humain. Le journaliste Sébastien Boller sera notre invité à partir de 12h55. Mais d'abord, l'énigme Lagerfeld, à l'occasion de l'hommage qui lui sera rendu demain au Grand Palais. Retour sur la vie de l'empereur de la mode, décédé le 19 février dernier, passé par Chloé, Fendi et surtout Chanel, avec notre invité, la journaliste Raphaël Baquet, et à l'occasion de la sortie de son ouvrage biographique Kaiser Karl chez Albin Michel. Bienvenue à tous sur France Culture, c'est la grande table jusqu'à 13h30.
La grande table. Olivia Jesbert.
Journaliste au Monde, notamment auteur de plusieurs biographies, Enquête des Strauss-Kahn à Ritchie, c'était le surnom du patron de Sciences Po, Richard Descoings. Raphaël Baquet est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Un jour, quand je serai vieux, j'aurai donc rétréci, je vivrai avec le canapé, les bergères, la table sur laquelle j'écrivais et dessinais, et je dormirai dans mon lit d'enfant. Voilà ce que disait Karl Lagerfeld. Pourquoi cette biographie sort-elle maintenant? De son vivant, est-ce qu'il aurait empêché sa parution? Vous pensez, est-ce qu'il l'a fait d'ailleurs?
En tout cas, il a empêché toutes les biographies et toutes les enquêtes sur lui précédemment, ça c'est vrai. Pour ma part, j'avais commencé cette enquête il y a 2 ans, d'une certaine façon sa mort m'a pris de court, mais je dois dire qu'elle a modifié le cours de mon enquête, parce que c'est vrai que les langues se sont déliées après son décès, et que certains témoins qui avaient refusé de me parler ou m'avaient tenu un discours plus lénifiant, soudain ont accepté de me raconter un autre visage de Karl Lagerfeld, l'autre visage de sa puissance, hein, d'une certaine façon, qui recouvrait un homme plus cruel, plus compliqué, plus violent parfois, plus narcissique aussi. Et bref, on finit par compléter ce personnage qui est quand même presque un personnage de roman.
Mais extrêmement doué et extrêmement cultivé, on va y revenir, Raphaël Baquet, lui parlait plutôt facilement de lui. La seule chose, c'est qu'il fallait pouvoir lire aussi entre les lignes, parce qu'il aimait aussi beaucoup réécrire sa vie.
Il parlait même abondamment, des milliers d'interviews pendant 60 ans de carrière. Et ce qui était intéressant, c'est de voir à quel point il a recomposé sa vie, il en a fait une légende, sans souci d'ailleurs de se contredire. C'était intéressant d'ailleurs de reprendre mensonge après mensonge la façon dont il avait réécrit entièrement son parcours et notamment son passé en Allemagne.
Jusqu'au bout, il s'est cru immortel, écrivez-vous, et en même temps, il abordait la fin, cette fin, notre fin à tous, de manière assez pragmatique. Quand c'est fini, c'est fini. Et donc, il voulait pas un enterrement glorieux, il voulait pas de démesure dans ce moment-là, plutôt quelque chose de simple. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Vous offrez le livre sur ses retrouvailles, ses funérailles, en petit comité.
Oui, c'est vrai, et il a tellement interdit, d'une certaine façon, toute cérémonie funèbre qu'il a gâché la sienne. C'est-à-dire que Chanel et LVMH, qui étaient les deux grands propriétaires des deux grands groupes pour lesquels il travaillait, se sont retrouvés démunis et ont organisé, au fond, une cérémonie qui ne lui ressemblait pas et qui va être compensée par celle qui aura lieu demain, probablement au Grand Palais.
Et voilà. Mais qui a la charge de cette cérémonie? C'est Robert Kersen. L'aurait-il voulu? Demain soir, un hommage est organisé par les marques, les grandes maisons pour lesquelles il officiait, Karl Lagerfeld, LVMH, propriétaire de Fendi, avec laquelle Lagerfeld a collaboré depuis ses débuts, Chanel, et puis la sienne, sa marque, Karl Lagerfeld, KL, selon ses initiales. Mise en scène par le grand Robert Kersen au Grand Palais, Karl Forever. Robert Kersen, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, comment rendre hommage à celui qui disait un enterrement, plutôt mourir?
Justement, pour moi, cet hommage prend la forme d'une célébration. On va célébrer Karl Lagerfeld et tout ce qu'il a fait et son esprit. Et on va fêter tout. C'était compliqué de concevoir quelque chose qui pourrait englober tous les intérêts et tous les talents de ce homme démesuré, sans nombre, sans comparaison à qui que ce soit, pour moi, ni dans le 20e, ni dans le 21e siècle, qui a touché autant de gens dans des domaines tellement différents. Donc cet hommage, est, j'ai dû tisser quelque chose que je pense un nouveau tissu qu'on va essayer de couper à la mesure de Karl Lagerfeld. Ce serait de la haute couture, j'espère, et pas du prêt-à-porter, même si le prêt-à-porter est quelque chose que Karl Lagerfeld a complètement renouvelé avec son esprit, mais c'est vraiment quelque chose de très particulier pour les trois maisons et pour le public et pour ses amis et tous les gens qui ont aimé et qui ont travaillé avec lui pendant cette longue période.
Alors Karl Lagerfeld était le scénographe d'une partie de ses défilés, notamment chez Chanel, et surtout le scénographe de sa propre vie, Robert Carsen. Vous aviez envie de reproduire aussi, dans cet hommage qui lui sera rendu au Grand Palais, une esthétique qui lui soit fidèle ?
Absolument. Dans tout ce que j'ai fait, puisque j'ai conçu la scénographie, la conception de cet événement, les intervenants, le live, le film, j'ai fait une sorte de documentaire, etc. Et à chaque fois, je me suis posé la question, est-ce que Karl aimerait ça? Est-ce qu'il aurait aimé ça? Et quand j'étais bloqué dans mes choix, c'était très facile à trouver une solution, the way forward, comme on dit en anglais, en réfléchissant à lui. Bon, c'est une intuition, mais et dans les choix de matériaux, comment complètement remplir le Grand Palais avec Karl, puisque bien évidemment notre exercice n'a strictement rien à voir avec un défilé. Ce n'est pas les 9-10 jours de montage de décors extraordinaires que Karl Lagerfeld a fait pour Chanel et qu'il a fait d'ailleurs dans d'autres endroits pour Fendi et pour Chloé et pour Karl Lagerfeld au passé. C'est autre chose, mais il fallait quand même que le Grand Palais soit complètement plein de Karl et que les choix esthétiques pour tout, comment les chaises sont disposées, comment la scène pour les parties live, tout, c'est quelque chose que j'espère que Karl aurait fait lui-même et je me suis inspiré des choses que lui a dessinées. Donc pour moi, c'était tout Karl avec tout ce que Karl a fait dans la mesure possible.
Et l'enjeu pour vous, Robert Carsen, qui allait orchestrer cet hommage demain soir au Grand Palais, comme pour Raphaël Baquet, qui signe une biographie non autorisée du Kaiser Karl Lagerfeld, c'est de trouver l'homme derrière la panoplie, l'homme derrière le catogan et les lunettes noires. Écoutez comment il parlait de l'évolution de son personnage, ce personnage qu'il s'était construit au fil des décennies.
Regardez-moi, qu'est-ce que j'ai, une veste noire, une chemise avec un col blanc, une cravate noire, et bon, les cheveux blancs, ça arrive à tout le monde, ça veut dire, c'est bon. Alors, où est la différence?
Pourquoi les lunettes noires, par exemple?
Parce que j'aime pas trop les projecteurs qu'on a dans la figure, et puis ça donne un mystère dans la mesure que moi je peux observer sans être trop observé. Les états d'âme qui s'expriment par les yeux, c'est pas un truc que j'ai envie de sur le marché.
L'autre
jour, j'ai lu, je crois, dans le Point, dans Michael Jackson, Charlie Chaplin et moi qui étaient les plus faciles à reconnaître. Je trouve ça très très flatteur parce que, bon, c'est rigolo, mais j'ai pas fait exprès. Et en plus, moi, je fais ça pas pour la scène. Moi, c'est sur la scène de la vie quotidienne. Mais pour moi, c'est une normalité totale. Je me trouve aussi normal que vous, si vous avez une idée de normalité en ce qui vous concerne.
Robert Carsen, vous étiez inspiré de lui, de cette panoplie, de ce masque qu'il portait pour le rôle de Jupiter dans Platé Dramo à l'Opéra Comique il y a 5 ans, à travers les témoignages que vous avez pu réunir, les photos de lui, signées Mondino, Leibovitz ou Helmut Newton, pour cet hommage au Grand Palais, mais aussi les poésies, parce qu'il était un grand adepte, très gourmand de lecture, de textes, de prose et de poésie. Quel portrait de lui va se dessiner ?
Oui, il avait mais il y a une obsession autour du livre avec sa librairie ou sa bibliothèque qu'il avait avec plusieurs centaines de milliers de livres. Donc j'ai tourné tous les interviews que j'ai tournées, une soixantaine, dans son studio avec les livres. Et puis après, nous avons un hommage et on a plusieurs artistes qui sont venus donner leur art pour Karl. Sans être rémunéré pour ainsi dire, et on a des gens extraordinaires, on a Tilda Swinton, on a Fanny Ardant, on a Cara Delevingne, on a Helen Mirren, on a Lil Buck, le danseur du Jukin qui vient des États-Unis, on a Lang Lang pour le piano, on a Charlie Siem qui joue le violon, Pharrell Williams avec des danseurs, et j'ai une troupe de danseurs de tango et musiciens de Buenos Aires, 25, qui viennent danser du tango, puisque Carl avait dit à plusieurs reprises que la musique latine était son rap préféré, son rap à lui, et que Carlos Gardel était son chanteur préféré. Donc on a tout ça ensemble, mais pas en même temps, donc c'est une espèce de va-et-vient entre les archives de Carl, les interviews et les lives. Et je ne voulais pas avoir un monsieur loyal, donc c'est Carl qui nous amène de sujet à sujet à travers les morceaux des douzaines et douzaines, des centaines d'interviews qu'il a données pendant sa vie. En trois langues, on utilise l'allemand, bien sûr l'anglais et le français.
Merci beaucoup à vous, Robert Carsen. Présente aussi demain soir la discrète Virginie Viard, bras droit de Karl Lagerfeld chez Chanel, qui lui a succédé après son décès à la tête des collections dans cette grande et prestigieuse maison qu'est Chanel. En parallèle, je tiens juste à préciser, Robert Carsen, que vous mettez la dernière touche à votre Iphigénie Antoride de Gluck, Levé de rideau, ce samedi au Théâtre des Champs-Élysées, un début d'été très occupé. Merci encore à vous.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Avec notre invité, la journaliste Raphaël Baquet, qui signe chez Albin Michel un Kaiser Karl, une biographie, enquête sur cet empereur de la mode qu'était Karl Lagerfeld. Vous ne serez pas demain soir la madame loyale de cette cérémonie, il n'y en aura pas, ce sera lui-même, son propre monsieur loyal à l'occasion donc de cet hommage orchestré par Robert Carsen. Tous témoignent, et Robert Carsen une fois encore, de sa culture immense, de cette bibliothèque infinie, universelle qu'il avait dans ses maisons, son appartement. Il aimait les livres, il aimait les tableaux, il aimait les photos, il aimait le design. C'est peut-être ça qui fait la particularité de cet homme, c'est cette culture incroyable.
Oui, et même son paradoxe, car effectivement, extraordinairement cultivé, très sophistiqué, avec une identité européenne, au fond, vraiment très profonde, il est devenu en même temps l'archétype de la mondialisation, un objet marketing lui-même. Et il a conjugué à la fois cette évolution de la publicité, de l'industrie vers l'uniformisation des goûts et la mondialisation, avec une haute culture qu'il portait lui-même.
C'était un puits de savoir, il était aussi polyglotte. C'est aussi comme ça que son choix de venir en France s'est fait. Il arrive à Paris en 52 parce qu'il parlait déjà le français. Un cosmopolitisme qu'il tient à la fois de son père et une curiosité intellectuelle de sa mère, fils d'un industriel allemand, Otto, et de Elisabeth, sa mère, à l'élégance toute prussienne. Lagerfeld réécrivait, on le disait souvent, son passé, mais ce qu'il dit là, dans ces mots qu'on va entendre de ses parents en 2009, semble assez fidèle au témoignage que vous avez recoupé.
On est quand même vaguement le produit de ses parents. Hein. Elle savait dire les pires choses, mais elle avait une façon d'embobiner les gens en même temps. Elle vous sortait une erreur, mais c'était en souriant, c'était génialement fait. Puis elle avait un aplomb que moi, à côté, je rase les murs. Hein.
Vous avez eu une enfance particulièrement entourée?
Oui, mais moins qu'on ne pense, puisque c'était l'époque la plus fabuleuse de l'histoire de l'Europe et tout. Mais c'était très bien pour le temps qui courait et tout. Ça va. Moi, vous savez, les enfants ne comparent pas. Je connaissais ni avant et je savais pas ce qu'il y aura après. J'avais une vague idée, mais par exemple, le métier, comme je l'ai fait, je vais dire une chose prétentieuse, comme je l'ai inventé dans un sens, n'existait pas. Donc, au fait, je ne pouvais pas faire des projections très très lointaines. Moi, je voulais devenir illustrateur, caricaturiste, parce que je suis assez doué pour ça, et pas vraiment peintre, peut-être portraitiste, mais ma mère dit, tenez, trop tard pour ça, c'est pas la peine, mais j'avais pas envie d'être dans les affaires, c'est pas que je n'ai pas un esprit à ça, mais c'était pas mon ambition première.
Voilà, vous racontez cette relation, Raphaël Baquet, qu'il avait avec sa mère, fondamentale, essentielle, au fil des années, écrivez-vous, il s'est même mis à jouer les ventriloques d'Elisabeth, Madame Lagerfeld, vue par Karl, c'est une longue série de vacheries racontées avec délectation, la liste des « ma mère disait »,« ma mère pensait » et sans fin, dressant le tableau d'une éducation terrifiante, mais d'un personnage hors du commun.
Oui, et d'ailleurs passablement réinventé, hein, car la mère de Karl Lagerfeld, même si c'était une femme très cultivée, une bourgeoise et aisée de l'époque à Hambourg, n'était pas aussi terrifiante qu'il en a fait le tableau, ni même aussi exceptionnelle. Hein. Il a souvent raconté qu'elle pilotait elle-même son avion, qu'elle était une grande violoniste concertiste, tout ça était faux, mais cette façon de la magnifier et d'en faire un personnage hors du commun, racontait aussi la façon dont il a recomposé un duo, puisque effectivement, dès que son père est mort, il a fait venir Elisabeth Lagerfeld à Paris. Il vivait avec sa mère. Et dans cette époque des années 60 ou 70, qui est la libération sexuelle, une époque un peu déjantée, si vous voulez, ça a contribué à lui façonner un personnage. Cet homme qui vivait avec sa mère et qui faisait très attention à elle et qui, dès qu'elle est morte, a continué à la faire vivre en réinventant ce qu'elle était.
Et son père, parce qu'on le lit dans votre livre, Raphaël Baquet, il était très présent, il a beaucoup appuyé, notamment son début, ses débuts à Paris en lui offrant voiture sur voiture, les moyens aussi, les conditions matérielles de son aménagement. Il était, dès ses années 50, très bien installé à Paris. Et pourtant, on sent, jusque dans les derniers mots qu'il vient d'avoir là sur ses parents, quelque chose qu'il méprisait chez son père, plus ou moins, cet affairisme, ce côté homme d'affaires. Il n'était pas cela, lui.
En fait, surtout, il a très vite effacé son père de son autobiographie et de sa légende. Alors même que Otto Lagerfeld l'aide vraiment à s'installer et l'entretient à ses débuts, Karl Lagerfeld a très vite menti sur ce qu'était Otto Lagerfeld, grand industriel de l'époque, effectivement polyglotte, qui avait voyagé à travers toute l'Europe. Hein. Il avait été en Russie au moment de la révolution bolchevique. Mais évidemment, il y avait une tache sur son passé, c'est que ce grand industriel qui tenait des usines de lait concentré avait passé un accord avec le régime nazi pour continuer à diriger son entreprise. Il n'était pas membre du parti nazi, mais il s'était compromis. Et cette tâche, Karl Lagerfeld n'a cessé de vouloir l'éliminer de son passé. Et donc pendant très longtemps, pendant les 30 premières années de sa vie professionnelle, il ment sur ce qu'est son père. Il dit tantôt qu'il est suédois, tantôt qu'il est danois. Il lui invente des racines aristocratiques. Bref, il recompose totalement ce qu'était Otto Lagerfeld, puis finit par carrément l'effacer au bénéfice de cette mère qui, évidemment, est un formidable écran de fumée pour qu'on évite de l'interroger plus avant.
Des débuts chez Balmain, puis Chloé, couturier prodige, Karl Lagerfeld va faire un passage aussi chez Patou. Il a 24 ans seulement et il se fait appeler alors parfois Roland Karl, toujours cette habitude de porter des masques, de se réinventer. Et c'était aussi pour lui une des multiples manières de masquer son passé, son phrasé. Et vous le racontez, il est plus posé à cette époque. Son accent est allemand, suédois, danois, en fonction des origines qu'il déclarait. Enfin bref, c'est vraiment un homme qui est d'ici ou d'ailleurs.
Parmi les grands succès de la saison, citons la Maison Patou. La Maison Patou, grâce à son jeune modéliste Roland Karl. Quand on dit jeune, on ne peut pas dire plus jeune, car il a 24 ans. Et il est assez nouveau venu dans la couture, on peut dire. Il est né à Hambourg. Vous êtes venu en France, je crois, par amour de la France, car vous ne pouvez vivre qu'ici, Roland Karl.
Oui, disons que j'aime surtout beaucoup Paris. Et je suis venu en France à 17 ans.
À 17 ans. Alors, il voulait absolument faire de la couture. Il a eu une chance, c'est qu'il a gagné un concours important, puisqu'il s'agissait d'obtenir le prix du meilleur modèle à un concours de la laine, le prix que vous êtes partagé avec Yves Saint-Laurent, je crois.
C'est-à-dire que lui, il avait un prix pour la meilleure robe et moi pour le meilleur manteau.
Et ceci se passait en 1954.
1954.
Bon, en fait, tous ceux qui s'y connaissent un petit peu ont pensé, en voyant cette collection du mois de juillet de l'année dernière, qu'il y avait en vous l'étoffe d'un excellent modéliste, et je crois qu'ils ont eu raison, car alors, cette collection-là est un très gros succès, n'est-ce pas?
Ah oui, oui, on a eu une très bonne presse aussi en Europe, du reste, et je crois que la maison est contente du succès.
Dites-moi, tout à l'heure, vous bavardiez avec moi et vous m'avez dit qu'au fond, il était très difficile de porter la toilette, parce que moi, je vous ai d'ailleurs objecté qu'on était toujours ou trop gros ou trop mince, et vous m'avez dit qu'on pouvait tout de même avoir de l'élégance.
Oui, il y a beaucoup de femmes qui sont ni jeunes ni très minces et qui sont très élégantes quand même.
Mais comment font-elles?
Eh bien, je crois que les chics, ça ne s'explique pas très, très facilement. Et c'est même pas question de beauté.
Non, c'est une question de tenue, je crois.
De tenue, de savoir bouger. Même une femme pas jolie peut avoir beaucoup d'allure et beaucoup de chic.
Oui, oui. Alors, quand il a dû habiller Marlène Dietrich, dans ces années-là, il s'est montré assez flatté de la proposition, Raphaël Baquet, mais vous le racontez. Il déteste finalement découvrir que l'ange bleu, désormais septuagénaire, maigre et surtout si humaine, une ménagère chez elle, hein, Karl Lagerfeld ne veut autour de lui que de la jeunesse, de la beauté, du luxe. Il veut des belles choses.
Oui, alors c'est intéressant votre archive parce que il est encore timide et il n'a pas encore menti sur son âge. Et le plus extraordinaire, c'est que ce mensonge a été, qui a commencé à entreprendre à l'âge de 38 ans, bien après, lorsqu'il rencontre un compagnon beaucoup plus jeune que lui, qui est Jacques de Bachère. Ce Manchon, c'est formidable. Alors vraiment, je crois que c'est le seul exemple à notre époque de transparence absolue. Ce mensonge, il a réussi à le maintenir pendant plus de 60 ans, alors que, comme vous le constatez, il était facile de vérifier son âge. Et ça, je trouve ça génial. Et ça dit tout de l'autorité qui peu à peu a été la sienne. Là, dans votre archive, il est encore un peu timide, presque gentil garçon. Il n'a pas encore cet accent heurté qu'il cultivera plus tard pour asseoir son autorité. Et vraiment, il n'est pas encore devenu le Kaiser.
Mais surtout, 1959, date de cet entretien, Saint-Laurent est déjà un homme qu'on ne présente plus. Hein. Quand la journaliste en parle, l'évoque, c'est Monsieur Saint-Laurent, tandis que Lagerfeld est, lui, ce jeune modéliste qui commence à sortir tout juste de l'ombre. C'est un des clins d'œil du destin, écrivez-vous. Ils vont faire l'un et l'autre leur début ensemble. Ils ont d'ailleurs d'abord été amis, mais très vite, la comète Saint-Laurent s'envole, parrainée, propulsée, protégée par Pierre Berger, tandis que lui, Karl Lagerfeld, va multiplier les contrats avec les plus prestigieuses maisons. Comment est-ce qu'il va réussir à se distinguer? Petit à petit, vous dites, lui, Lagerfeld, a vaincu Saint-Laurent à l'endurance.
Oui, en fait, il ne va réussir à, sinon surpasser Saint-Laurent, en tout cas à lui survivre, que lorsque Saint-Laurent sombre dans la dépression et peu à peu se retire de la planète mode. Hein. Et puis ensuite, il s'en libérera tout à fait, il faut bien le dire, à la mort de Saint-Laurent. Et c'était un moment extrêmement important, car cette rivalité a été un aiguillon constant dans le parcours de Karl Lagerfeld.
Vous dites même qu'il signe chez Chanel en 82 en ayant bien en tête aussi bien l'admiration sûr qu'avait Saint-Laurent pour Madame Chanel.
Il sait que Saint-Laurent a pour modèle Coco Chanel et que Coco Chanel même a désigné Saint-Laurent comme son dauphin. Et c'est une forme de formidable revanche que de prendre pour lui la direction de Chanel, et c'est comme ça effectivement qu'il va réussir à égaler ce grand rival éternel.
Alors sur sa rivalité avec Saint-Laurent et son inimitié pour Pierre Berger, en 2000, un journaliste lui demande ce qu'il entend quand il se qualifie de tueur à gages de la mode.
Vous m'engagez pour faire une chose, hein, disons la maison Chanel. Eh bien, je fais ce qu'on m'a demandé. Je suis comme les gens à qui on demande un contrat, je suis 100% honnête dans mon travail. Je veux dire, je fais ce qu'on me demande, ce que je dois faire, sinon je n'ai pas à le faire. Et moi j'aime beaucoup cette espèce de mentalité d'accepter un contrat qui évidemment n'entraîne pas la mort dans ce cas-là, mais je trouve ça une grande honnêteté. Pierre Berger dit que je suis un mercenaire, moi je prends ça pour un compliment.
Je suis pas sûr qu'il le dise comme un compliment, Pierre Berger.
Non, mais je crains que ces flèches ont été tellement adoucies qu'elles ne peuvent plus tuer.
Voilà, et tac, ils étaient toutes ces années encore et toujours dans une rivalité, une concurrence et une inimitié surtout avec
oui,
Pierre Berger.
Oui, même hein. Une vraie détestation ouais. Qui a perduré jusqu'à la mort de Pierre Berger.
Et ça, dès les années 50-60, deux clans vont vraiment se former autour des deux couturiers. Ce qui est intéressant, là, sur ce qu'il raconte de sa pratique aussi de la mode, c'est deux conceptions très différentes. Saint-Laurent va fonder avec Berger sa maison, sa marque, tandis que effectivement Karl Lagerfeld va travailler comme un mercenaire pour beaucoup de maisons différentes. Il y a une époque où il multiplie des contrats avec une vingtaine de maisons dans le monde entier. Hein.
Ce qui est intéressant chez Lagerfeld, c'est que il comprend, anticipe et accompagne l'extraordinaire transformation de la mode qui passe d'un artisanat à une industrie mondialisée. Et il va en devenir l'icône et mieux encore, se maintenir à son sommet jusqu'au bout de sa vie. Alors que Saint-Laurent est encore, même si Saint-Laurent s'est mis au prêt-à-porter et donc a bien compris l'évolution de la couture, mais Saint-Laurent se conçoit comme un artiste, ce que jamais Karl Lagerfeld n'a prétendu être. Lagerfeld a toujours, et bien d'une certaine façon, un fils d'industriel. C'est-à-dire qu'il concevait la mode aussi comme un commerce. Et il n'avait pas honte de cela, et même il l'assumait, même il en faisait une forme de coquetterie. Et c'est ça sa grande modernité, d'une certaine façon.
Il n'avait pas besoin d'avoir ses initiales sur l'étiquette des vêtements qu'il dessinait.
Non, après il a réinventé qu'il trouvait ça vulgaire. Bien sûr, pendant très longtemps, il aurait aimé, à vrai dire, avoir comme Saint-Laurent sa propre maison. Il a choisi une forme d'ascension plus rapide, qui était de travailler pour d'autres. Et au fond, c'est vrai que son ascension a peut-être été plus éclatante encore, et en tout cas plus longue.
Quel était son principal talent pour vous ?
le dessin, indéniablement. C'est un immense dessinateur qui ne fait pas que dessiner, qui nourrit son dessin d'une très grande culture. Alors, Robert Carsen parlait tout à l'heure de cette extraordinaire bibliothèque que j'ai eu l'occasion aussi de visiter, qui est vraiment tout à fait exceptionnelle, aussi bien avec des livres de littérature, de poésie, d'architecture, de photographie, que des dictionnaires formidables. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon d'utiliser les livres. Il achetait toujours les livres en deux exemplaires. Un exemplaire pour cette fameuse bibliothèque et un exemplaire qu'il découpait, triturait et qui, au fond, venait nourrir son inspiration. Et ça, c'est vraiment une façon de travailler tout à fait étonnante.
Le monde de la nuit, entre drogue et sexe, avec son clan, entouré d'une jeunesse américaine au début, puis par la suite, ça a toujours été avec lui, mais sans lui. Je vous propose d'écouter ces derniers mots de lui parce que ça campe aussi assez bien ce personnage et le rapport qu'il a eu à la vie, tout simplement, toutes ces années.
J'ai jamais fait partie de ça. Hein. Je suis le témoin d'un monde dont je ne faisais pas partie. Mais c'est assez drôle parce que moi, il y a des gens que j'admire presque, qui ont le don de se détruire et tout. Moi, j'ai un instinct de préservation tel que, finalement, j'ai survécu à tout ce beau monde, parce que il y a une sorte de voyeurisme et de curiosité, mais j'avais pas envie de me mêler à ça, parce que je sentais aucun besoin de paradis artificiel, ni rien. Vous savez, je bois pas, je ne fume pas, mais je suis pas du tout contre les gens qui boivent et qui fument, ça ne me gêne pas du tout. Mais après, quand ils ont un petit cancer du poumon, il faut pas non qu'ils pleurent, hein. Là, vous regardez les livres, la moitié des gens sont morts, hein. C'était quand même une espèce de folie déchaînée, d'insouciance, pas du tout basée sur le bling-bling et des trucs d'aujourd'hui. C'était assez modeste relativement, si on pense à ce que les gens ont l'habitude de voir aujourd'hui. Il n'y avait pas de people, il n'y avait pas de red carpet, il n'y avait rien de tout ça. Et les icônes étaient encore dans les églises russes. Hein. Parce que, comme je disais dans ma petite préface, payer qui avait l'argent, il n'y avait pas de sponsorisation, il n'y avait pas de bonnes œuvres, il n'y avait pas d'humanitaire, hein. Ça n'existe pas.
Raphaël Baquet, un instinct de préservation, ça le caractérise bien aussi.
Hein. Oui, c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'était pas seulement le témoin de ces fêtes déjantées des années 70, il en était le producteur, car il les payait. Et même s'il n'y apparaissait qu'une heure et au fond après rentrait chez lui pour être en forme dès le matin, au petit matin, et dessiner pour ses clients, il a tout de suite compris qu'il fallait... pour parfaire son image d'aristopunk hein, qu'il a soigneusement composé, il fallait aussi tout de même avoir des envoyés dans le monde de la nuit.
Ça, c'était le conseil que lui avait donné Andy Warhol à ses débuts. C'était « ne t'occupe pas de ce qu'on dit de toi, mais fais en sorte ». Je ne sais plus quelle était la phrase exacte.
Qu'on s'en souvienne.
Mais qu'on en parle, en tout cas, qu'on parle de toi. Voilà, merci beaucoup Raphaël Baquet à lire, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont racontées dans ce livre « Kaiser Karl » chez Albin Michel. Votre biographie, donc, de Karl Lagerfeld, qui paraît chez Albin Michel. Donc, merci beaucoup à vous.